ici Raymond Bourgeon-Champagne et à Rencontre spirituelle aujourd'hui, nous allons dire quelques mots de Saint-Hubert et surtout de Sainte-Pétronie. Sainte-Pétronie qui passe pour être la fille du premier pape Saint-Pierre, mais on verra ce qu'il en est. Nous allons parler aussi de Sainte-Angèle de Mérici, la fondatrice des Ursulines. C'est vraiment remarquable. Saint-Gabriel de la Dolorata aussi. Et enfin, quelques mots de la visitation de Marie. C'est la fin du mois de Marie. Et nous y penserons, et justement, alors, Saint-Hubert était un Belge. Et c'était le successeur de Saint-Lambert, qui était évêque de Maastricht. Saint-Lambert est mort assassiné à Liège, en 705 en Belgique. Et on sait moins qu'il a eu pour successeur, justement, sur son trône, sur le trône épiscopal, le célèbre Saint-Hubert, le patron universellement connu des chasseurs. Et ces deux évêques ont consacré leur vie à lutter contre les cultes païens qui régnaient encore à cette époque. Ce ne sont peut-être pas de mauvaises choses qui nous reviennent. J'ai l'impression que les cultes païens reprennent du poil depuis quelques années. Et Hubert, ayant christianisé plusieurs temples qui étaient dédiés à un dieu qui s'appelait Odin, O-D-I-N, les populations locales se sont mis à identifier ce Saint-Hubert avec ce dieu roi, maître des guerriers fauves, maître des valkyries. Et ainsi s'explique, on peut dire, le patronage d'Hubert sur les grandes chasses. Et son rôle aussi contre la rage, il a été toujours invoqué contre la rage. Hubert a transféré la dépouille de son prédécesseur Saint-Lambert de Maastricht à Liège. Et c'est comme ça que Liège est devenu le centre du diocèse. Lors des grandes crises de la principauté, les reliques étaient promenées en procession. Et à sa mort en 727, Hubert fut à son tour inhumé à Liège, mais en 825, ses restes furent transférés à Andage, en Ardennes. Il paraît qu'à Andage, encore de nos jours, c'est un lieu de pèlerinage très actif, avec des processions qui relèvent beaucoup du Moyen-Âge. Il paraît que c'est très intéressant. Alors, les reliques ont été perdues pendant la guerre, les guerres de religion, il y a 3 siècles, et ce fut terrible. Et chaque année, on imprime encore des appels à la prière pour retrouver le corps de Saint-Hubert. On le cherche toujours. Son culte n'a pas souffert de sa disparition, parce que les guérisons de la rage intervenaient grâce, étrangement, et je le signale parce que c'est assez curieux, grâce à l'étole et à la clé ayant appartenu au saint. C'est assez curieux. Il est mort, Saint-Hubert, le 30 mai 727. Il y a donc 1268 ans, mais il est encore populaire. Il est encore populaire et c'est surprenant quand on lit tout ce qui tourne autour de sa vie et de cette fameuse étole que l'on disait être miraculeuse. On se rend compte qu'en 1561, Calvin lui-même, ce grand penseur protestant français, a lui-même fait tailler, comme on dit, son fils qui était mordu par un chien. Qu'est-ce que ça veut dire faire tailler son fils? Ça veut dire faire ouvrir la peau de son enfant légèrement, ou peut-être 2 centimètres, et d'y insérer un petit brin de fil de cette fameuse étole afin de le guérir de la rage. Étrange méthode, hein? Mais à la mort d'Hubert en 727, son étole a été enterrée avec lui. Puis c'est en 743, lors de la translation des reliques au maître-autel de la cathédrale de Liège, qu'on a retiré l'étole, dit-on, de la châsse, c'est-à-dire du grand reliquaire, une espèce de, disons, de tombe plus réduite. Hein. C'était très très beau ces châsses, elles étaient souvent couvertes de bijoux, elles étaient faites de métaux précieux. Et alors, on a retiré donc l'étole de la châsse et les guérisons des malades atteints de la rage ont commencé à se multiplier. selon un rituel qui est attesté depuis le 9e siècle et dont on fait état encore à la fin du 19e siècle, il y a 100 ans. On signale 4700 guérisons entre le 1er janvier 1845 et le 12 octobre 1860, donc une quinzaine d'années. 4700 guérisons, disait-on. Lorsqu'une personne avait été mordue par un animal enragé, mais elle se rendait au sanctuaire de Saint-Hubert, où elle était accueillie par un prêtre qui lui faisait réciter une invocation à Saint-Hubert, et avec un canif, on pratiquait ensuite au front du patient, comme je vous ai dit, une légère incision de 2 cm de long environ. Et le prêtre soulevait l'épiderme et à l'aide d'un poinçon introduisait sous la peau un filament de la sainte étoile. Et pour éviter que le fil ne ressorte, là, perdant ainsi toute son efficacité, croyait-on, eh bien l'incision était recouverte d'un bandeau noir qu'il fallait conserver 9 jours. Cette neuvaine comportait diverses pénitences qui semblent remonter à Saint-Hubert lui-même, et on ne devait ni se coiffer, ni se raser, ni se laver le visage et les mains, mais boire dans un verre particulier, s'abstenir de vin pur et manger froid. Je vous signale ces détails-là, c'est pour vous dire comme la foi chrétienne et la foi catholique a grandement changé, tout en conservant certains détails qui peuvent nous sembler curieux, mais qui tirent leur origine dans ces pratiques qui touchaient presque à la superstition, mais qui manifestait quand même chez nos ancêtres beaucoup de foi dans la puissance des saints auprès du cœur de Dieu. Il en va ainsi aujourd'hui, qu'on me permette de le dire simplement, par le port d'une médaille avec beaucoup de foi, le fait qu'on se signe avec de l'eau bénite quand on entre dans une église, ou une simple utilisation d'eau bénite à l'occasion. Ça doit être fait de façon non superstitieuse, ça doit être fait avec beaucoup de foi, en se servant vraiment de son intelligence et de son amour de Dieu. Autrement, si on utilise, disons, de l'huile de Saint-Joseph, comme si c'était de la magie, ça n'est pas de la magie. C'est un geste de foi, de tendresse à l'égard du Père de Jésus, Saint-Joseph, afin qu'il nous assiste dans certains malheurs, dans certaines difficultés, soit pour accepter simplement les choses telles qu'elles sont, avec amour, avec confiance, soit pour demander vraiment un changement des événements, un miracle, quoi. On ajoute qu'à l'époque de la fameuse étole, il fallait dormir seul dans un lit au drap blanc, il fallait se confesser, il fallait communier, et observer dorénavant, tous les ans, la fête de Saint-Hubert. L'étole, disait-on, ne diminue jamais, bien que depuis des siècles, on lui ait ainsi enlevé chaque jour quelques fils. Je vous raconte ces détails qui sont peut-être vrais, peut-être faux, mais je crois qu'il est possible. J'ai déjà été personnellement témoin de quelques miracles, un jour je vous en ferai part, mais je porte foi à ces détails. Dans l'essentiel qu'il nous offre sur la préoccupation de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu est un Père au cœur de mère qui se penche sur nos désirs, qui s'attarde à bien des petits détails. Et je vous avais bien signalé l'autre jour en parlant de Madeleine Sophie Barra, fondatrice des Sœurs du Sacré-Cœur, que les élèves s'amusaient à prendre leurs livres de classe pour mettre sur l'autel à la page où ils souhaitaient être questionnés, et que ça marchait parfois. Et pourquoi pas? Dieu, vous savez, a le sens de l'humour, le sens de la finesse, la tendresse à l'égard des petits et des gens simples. Et ainsi en a-t-il eu à l'égard de Saint Gabriel de la Dolorata, dont c'est la fête aujourd'hui. Saint Gabriel de la Dolorata, on entend souvent ce nom et on se demande qui c'est. C'est un jeune saint, très très ordinaire. Je dirais que c'est un modèle justement pour les simples. Pour les gens qui se disent, ah, je suis né pour un petit pain, j'ai rien, qu'est-ce que je peux faire? Il y a des gens qui me disent, vous nous racontez des vies de saints, c'est fantastique, c'est passionnant, on aime ça, mais on sera jamais capable de faire pareil. Jamais il nous arrivera des phénomènes pareils. Jamais on sera capable d'en faire autant. Mais tout ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la tendresse de notre cœur. Je vous ai déjà dit que j'ai adopté quelqu'un qui était très, très attardé. Quand je l'ai adopté à 18 ans, il savait même pas que la terre était ronde. Il m'a écrit quelques années plus tard, « Ce n'est pas la beauté qui compte, c'est le cœur qui compte. » Oh, c'était très naïf. Mais combien vrai. Gabriel de la Dolorata est né le 1er mars 1838, il n'y a donc pas si longtemps. Il est né à Assise. Il a été baptisé, et c'est bien normal, François, de son nom de famille Possenti. François Possenti était l'un des nombreux enfants du gouverneur pontifical de la ville. Il faisait partie des États pontificaux. L'Italie était alors en pleine crise de croissance nationale. L'Italie cherchait sa libération pour former un véritable pays. Et François, qui a été confirmé le 1er juin 1846, soit 8 ans plus tard, a été confirmé le jour même de la mort du pape Grégoire XVI. Et il a fait sa première communion le jour où Pie IX, sous la menace de l'agitation des sociétés secrètes, s'est réfugié à Gaète. C'était le début énorme des troubles qui ont... Vous vous souvenez des troubles des États pontificaux au 19e siècle, hein? Et la réduction des États pontificaux, finalement, à ce petit État qu'est le Vatican, et c'est beaucoup mieux, à mon avis, comme ça, que de voir le pape ayant un pouvoir temporel qui, me semble, n'a aucun rapport avec l'esprit évangélique qui habite les papes qui sont vraiment des papes et des saints. Ceux qui le sont, évidemment. Et surtout depuis... 100 ans, nous avons d'excellents papes. Ayant vécu donc des temps troublés, François Possenti, notre Gabriel de la Dolorata, c'est son nom de religion, a cherché la paix au fond de son âme. Il avait une nature vive, loyale. Il était vraiment comme un chevalier. Il était très chevaleresque. Il a été très très apprécié des jésuites du collège de Spolète, où il a fait de brillantes études. Et c'est surprenant pour un enfant aussi brillant, ce qui lui arrive. Adolescent, il est plein de charme, il est même beau gars, il est élégant, il a de la verve, beaucoup de délicatesse. Il aimait lire des romans, il jouait, il faisait au théâtre, il aimait le théâtre, il aimait la chasse même. Il était excellent danseur. Et après avoir perdu sa mère, lui, il avait perdu sa mère à 2 ans, François Possenti a perdu en sa sœur aînée Marie-Louise sa seconde mère. Il avait 17 ans. Elle est morte du choléra le 3 juin 1855. Et cette mort l'a affecté beaucoup. Au lieu de songer autant à son avenir, à ses plaisirs, pas, c'était pas des plaisirs malsains, il était pas mauvais. Je vous l'ai dit, il était chevaleresque, il était honnête. Mais il aimait s'amuser, normalement, comme un chrétien qui aime les belles choses, le théâtre, la danse. Pourquoi pas la danse? C'est très agréable de danser, je n'ai rien contre ça personnellement. Alors, au lieu de songer donc à son avenir, il a commencé à songer à son éternité. C'est ce qui arrive souvent devant le phénomène de la mort quand on a 17-20 ans. Et après un an d'épreuves exigées par son père, qui voulait pas le laisser entrer en religion, mais il est entré en 1856 dans une congrégation que l'on connaît peu ici, les passionnistes. Qu'est-ce que les passionnistes? C'est un institut fondé par le fameux Saint Paul de la Croix en 1720. Et Saint Paul de la Croix a été béatifié en 1853, deux ans avant la mort de Marie-Louise, la sœur de notre François Possenti, Gabriel de la Dolorata. Il était marqué par ses canonisations, sans doute. Il était attiré par les passionnistes. Parce que les passionnistes étaient voués, chose étrange, c'est une étrange théologie dans un sens, à compenser par les autorités de la pénitence le crime du calvaire. Hein? Pour ça qu'on les appelait des passionnistes. On souffrait dans le but d'unir ses souffrances à celles du Christ pour réparer la dette due au péché, pour plaire à Dieu. L'avantage chez les passionnistes, quand on lit les textes, quand on lit aussi l'esprit dans lequel ça a été fondé, c'est qu'on n'insistait pas uniquement sur la pénitence, on insistait surtout sur l'amour. Au creux de la pénitence, aimer Dieu, aimer les autres, se donner, c'était vibrant d'amour. Hein? Alors, entré dans sa cellule, François Possenti s'est écrié, dit-on, « Tous sum ego, je suis à toi ». C'est au fond la parole qu'Isaïe met sur les lèvres du Seigneur, « Meus est tu es à moi ». Et lors de sa prise d'habit, le 21 septembre, il reçoit le nom de Gabriel de la Vierge des Douleurs. Gabriel de l'Adolorata, Adolorata, la Vierge des Douleurs. Et peu de temps après, il présente tout ce qu'il fait, les joies, les douleurs qu'il a, tout ce qu'il a, il offre ça à Marie. Il a une tendresse énorme pour Marie. Ça nous manque beaucoup. Moi-même, j'ai une dévotion à Marie, j'aime beaucoup Marie, mais pas au point de me reconnaître là-dedans. Je suis ébloui, émerveillé, touché. Peut-être que ça stimulera chez moi une plus grande tendresse à l'égard de la Sainte Vierge. Et il cherche à sauver, dit-il, les âmes du purgatoire. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, par son amour, déborder sur le cœur des âmes du purgatoire afin que leur désir de voir Dieu soit encore plus grand et les rapproche de la béatitude éternelle. Et à l'époque où Nietzsche, Frédéric Nietzsche, ou Nietzsche si vous préférez, ne voyait que dans le christianisme qu'une religion de faibles et d'esclaves, comme on nous dit souvent aujourd'hui, dis-moi pas que tu es encore catholique et que tu t'intéresses à une religion pareille. Ben oui, ce n'est pas une religion de faibles et d'esclaves, comme disait Nietzsche. Car, quand on y pense, Gabriel de la Dolorata avait bien raison quand il disait d'un saint, on te croit indifférent parce que tu ne veux pas voir, paisible parce que tu sais garder le silence, heureux parce que tu ne te plains jamais. Heureux tu l'es sans doute, mais le monde voudrait-il de ton bonheur? Car c'est difficile de transmettre aux autres le bonheur que l'on ressent à l'intérieur. Quand on aspire, oh, bien humblement et bien simplement, à imiter les saints, c'est qu'on ne veut pas voir les idioties et les bêtises. On veut voir ce qu'il y a de grand et de beau qui est d'abord Dieu. Dieu, ses saints, et ceux qui, dans l'Église ou ailleurs, vivent de façon généreuse, vraie, authentique, intelligent, dirais-je, pas nécessaire d'être cultivé pour être intelligent. Les paysans sans connaissance de l'écriture ont souvent une intelligence immense. Être paisible parce qu'on sait garder le silence. Savoir arrêter la télévision. Savoir lire le journal plus rapidement. Savoir se recueillir. Savoir être ce qu'on est vraiment. Je fais une petite parenthèse. Je lisais dans le journal des diplômés de l'Université de Montréal un très bel article sur le cardinal Turcotte, le cardinal au visage humain. Article de Claude Lamarche. L'article commence ainsi, même s'il porte officiellement le titre d'éminence, Jean-Claude Turcotte a gardé les deux pieds sur terre. Il ne regarde personne de haut. Et l'article se termine ainsi. Administrateur, défenseur de l'Église, homme de combat et de terrain, reste-t-il du temps à l'homme de Dieu pour entretenir sa vie spirituelle? Et Je vous lis in extenso, au complet, la réponse de l'archevêque de Montréal. Pour moi, c'est un must. J'y consacre au moins 3 heures par jour. Le matin, à dire la messe et à lire le bréviaire. Le midi, à une méditation et le soir, à des lectures spirituelles. Je ne peux m'en passer. J'ai choisi le Christ comme partenaire. Il est mon bien le plus précieux. Je me dois de nourrir cette relation comme l'homme épris entretient chaque jour son amour avec son épouse. Et ce n'est pas un effort, c'est une nécessité. J'ai aussi besoin, continue le cardinal Turcotte, j'ai aussi besoin sur le plan spirituel d'un temps de réflexion, comme une espèce de désir de sortir de l'excès de bruit et de vitesse, de la bousculade incessante des choses à dire et à faire, pour retrouver une vie calme, intérieure. Et c'est dans cette quiétude que je peux laisser déposer la réalité pour la mieux décoder et comprendre et pour retrouver la sérénité. Saint Gabriel de la Dolorata, qui était très jeune, a retrouvé chez Saint Grégoire le Grand, ce grand pape bénédictin qui a connu Saint Benoît, n'est-ce pas, ce texte de Saint Grégoire dans une lettre qu'il avait adressée à l'empereur de Constantinople. Et Gabriel, donc, écrit en 1839 à un de ses amis, « Si j'avais persisté, » et il pense comme Saint Grégoire le Grand, hein, « si j'avais persisté à rester dans le siècle, » c'est-à-dire dans le monde, dans la vie civile, j'explique ce mot-là, le siècle, parce que s'il y a des jeunes qui m'écoutent, ils peuvent se demander qu'est-ce que ça veut dire, ça, « si j'avais persisté à rester dans le siècle ». C'est des vieilles expressions. Hein. Donc, « si j'avais persisté à rester dans le siècle, il me semble » que je ne me serais pas sauvé. Sauvé, c'est-à-dire, je n'aurais pas réussi à vivre avec Dieu, avec le Christ, dans la vérité, loin des banalités et des bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Saint Gabriel de Lorata? Ben, il était tour à tour fleuriste, dans sa congrégation des passionnistes, sonneur, connaît la cloche, sacristain, infirmier. Il a rempli toujours ses fonctions très, très modestes, avec une obéissance et une régularité exemplaire. Et ses auteurs spirituels préférés, ben, c'était tout simplement Saint François de Sales et Saint Alphonse de Ligorie. Et sa santé, qui était fragile, qui a presque été un obstacle à sa vocation, est devenue de plus en plus précaire. Il faut se rappeler qu'au 19e siècle en particulier, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes mouraient au début de leur 20e année. On le voit d'ailleurs chez Thérèse d'Enfant Jésus, elle est morte à 24 ans, à la fin du siècle. Il faisait froid, ces endroits-là n'étaient pas chauffés, c'était très humide, la nourriture n'était pas toujours ce qu'il fallait à cause des guerres, à cause des sécheresses. On n'avait pas les mêmes méthodes qu'aujourd'hui pour sauver du froid, et l'aspirine n'existait pas, et la simple petite aspirine nous guérit souvent de bien des débuts de maladie. Alors, le pauvre lui, au printemps de 1861, son supérieur le dispense de l'office de nuit, il a 23 ans. Alors, il ne se lève plus la nuit pour aller prier avec les autres. Ce qu'on pratiquait dans ses congrégations encore au 19e siècle. Je me souviens, moi, j'ai déjà voulu rentrer dans un monastère bénédictin en France, à la Pierre-qui-Vire. Il y avait le lever de nuit, croyez-moi, à 2 heures de la nuit. Hein, c'était pas facile, dans le froid, aucun chauffage en plein hiver. Et chez les Chartreux, où j'ai vécu, bien là, c'était pire. On nous réveillait à minuit moins 20, et l'office commençait à minuit, l'office de nuit. Évidemment qu'on se couchait tôt. Mais on se réveillait en pleine nuit, quoi. C'était l'office de nuit, l'offrande de tout notre être, de toute notre énergie de jeûne pour chanter à Dieu sa gloire, le remercier, l'adorer. On l'aimait et on le lui disait. Alors, il était dispensé de ça. Ça a dû être une grande douleur pour lui. Et Gabriel de la Dolorata, jeune étudiant en théologie, a été atteint de phtisie. Il m'a craché le sang. Et le 27 février 1862, il est mort à 24 ans. Dans des sentiments de piété admirable, dit-on, moins de 30 ans plus tard, le 17 octobre 91, on a procédé dans l'église d'Isola, au pied des Apennins, à la reconnaissance des restes de Gabriel pour commencer le procès de béatification. Mais les paysans des alentours se sont opposés au transfert du corps de leur saint, qui était prévu par l'autorité ecclésiastique, parce qu'on voulait le transporter au couvent des passionnistes de Spolète. Les miracles ne tardèrent pas à confirmer la certitude qu'avaient les habitants de posséder le corps d'un saint. Et alors le plus célèbre de toutes ces guérisons, c'est la guérison d'une jeune fille de Luc, Gemma Galgani. Ça vous dit peut-être quelque chose, Gemma Galgani? Miracle. Cette guérison est arrivée le 13 février 1899. Gemma Galgani, c'est une sainte que j'aime beaucoup. C'est une petite sainte très très humble. Elle a été canonisée à son tour. C'est une grande petite sainte. J'ai une grande tendresse pour ces saints qui me rappellent un peu l'état dans lequel était mon pauvre fils adoptif dont je me suis occupé pendant 23 ans. Et le 13 mai 1920, jour de l'Ascension, bien Benoît XV a canonisé Gabriel de la Dolorata avec qui? En même temps que Marguerite Marie à la Coque, cette sainte fort connue pour les révélations du Sacré-Cœur. C'est aussi aujourd'hui la fête de Sainte Pétronille. Sainte Pétronille, mon Dieu, mais qui est-elle? Est-ce bien la fille de Saint-Pierre? Moi, c'est une sainte du 1er siècle, donc. Il y a presque 2000 ans. Elle s'appelait Aurelia Petronilla. C'était une Romaine. Alors, c'était impossible que la fille de Saint-Pierre soit enterrée là. Impensable. C'était alors une règle absolue qui était issue des mœurs païennes de n'admettre dans le cimetière familial aucune personne étrangère. Elle appartenait à la branche chrétienne non régnante de cette famille. Alors, Petronille fut probablement catéchisée et baptisée par Saint-Pierre, d'où lui vient le titre de fille de Saint-Pierre, c'est-à-dire qu'elle était la fille spirituelle de Saint-Pierre, le premier pape. C'est pour cette raison, donc, que plusieurs documents lui donnèrent le titre de fille de Saint-Pierre, et cette Vierge avait, pour le prince des apôtres, pour Saint-Pierre, une grande vénération, puis elle a mérité d'être l'objet de sa plus paternelle tendresse. Elle était considérée, donc, comme sa fille spirituelle adoptive. Et dans les temps qui suivirent, l'expression « filia santi petri », fille de Saint-Pierre, qui a fait l'illusion partout, hein. Mais c'est une opinion erronée qui s'est accréditée jusqu'au XVIIe siècle, selon laquelle Petronille aurait été la propre fille de Saint-Pierre, née avant la vocation apostolique de Pierre. Et quant au nom de Petronille, mais on doit, pour se conformer vraiment aux règles de la langue latine, le faire dériver de Petronius et non de Petrus. En somme, si l'on a cru voir en Petronille un diminutif de Petrus, qui veut dire Pierre, c'est que sans y prendre garde, on a reporté sur le nom une relation qui n'existait qu'entre les personnes. Et là, je vous fais grâce des vieux textes de Saint-Néré et Achille, des textes à leur sujet, eux qui ont été exilés avec Flavia Domitille, le cimetière dans lequel on a retrouvé le corps de Saint-Pétronille, et qui avaient été martyrisés sous le fameux Domitien, là, on en a déjà parlé à la fin du 1er siècle, eh bien, ces textes-là contiennent une lettre qui est adressée par le fils de Marc, hein, fils de Saint-Marc. Le fils de, plutôt de Marc était préfet de Rome à ces saints-là durant leur exil. Et ce document relate la guérison miraculeuse de notre sainte Pétronille. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'était consacrée au service de Saint-Pierre, puis elle était atteinte de paralysie. Elle ne put bientôt plus s'acquitter de son travail. Et Tite, qui était disciple de Saint-Pierre, on le connaît, Tite, hein, lui demanda « Pourquoi ne guéris-tu pas Pétronille ?» Et Pierre de répondre, parce qu'il lui est bon d'être dans cet état. Curieuse réponse. Il ajoute, mais afin que l'on ne croit pas que ces paroles dissimulent une incapacité, Saint Pierre a commandé à Pétronille en disant, lève-toi et rends-nous un peu service. Ce qu'elle fit aussitôt. Et l'apôtre Saint-Pierre, dit-on, lui ordonnait ensuite de se recoucher pour continuer d'être éprouvé par la maladie. Mais le Seigneur l'a maintenu en santé. Seigneur était meilleur que Saint-Pierre. Dieu est bon. Et voyant que Pétronille se tenait debout et n'était plus paralysé, il l'a gardé comme ça. Et là, on raconte qu'elle aurait été d'une grande beauté, puis que un noble court après elle, essaie de la marier, mais elle est tombée malade, et elle est morte. Et puis, elle est morte probablement vers l'an 90, croit-on. Cette version a contre elle un témoin de premier ordre, une fresque de la catacombe de Flavie Domitia, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où elle est enterrée, représente une femme qui est nommée Veneranda, et qui est accueillie au ciel par qui? Ben, par nul autre que Petronella. Martyr, dit-on. Elle joue ici le rôle qui est prêté à Saint-Pierre dans d'autres représentations. Vous savez, on voit souvent Saint-Pierre qui a les clés du paradis et qui reçoit les saints. Oh mon Dieu, que de représentations on voit dans les tableaux d'à travers les siècles, c'est Saint-Pierre. Mais là, cette fois-là, dans les catacombes, c'est Pétronille qui est à la porte du ciel. Alors, les représentations où on voit Saint-Pierre sont sans doute à l'origine de la légende selon laquelle toute âme est introduite au paradis par celui qui en a reçu les clés. Vous vous souvenez, Saint-Pierre a reçu les clés de Jésus. Et cette peinture dans les catacombes prouve que Pétronille était l'objet d'un culte. Et on sait qu'à cette époque, ce culte ne pouvait être que celui des martyrs. Et nous avons la certitude qu'il s'agit bien de notre sainte, puisque les actes, ou si vous voulez, les récits de Néron et Achille, de leur vie, de leur martyre, précise que Pétronée fut effectivement ensevelie dans la propriété de Domitie et qu'elle était donc martyre. Elle n'est pas morte simplement comme ça pour éviter un mariage avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? On peut dire que son culte s'est répandu, mais c'était extraordinaire. Clovis, le roi des Francs, fameux Clovis, qui était vainqueur des Alamans à Tolbiac. On a lu ça dans l'histoire de la France, ou on peut lire ça dans des livres aujourd'hui de petits dessins. Bien, il avait été vainqueur avec l'aide du dieu, dit-on, de Clotilde, la fameuse sainte Clotilde. Je vous en parlerai ces jours-ci de sainte Clotilde, qui est une grande sainte. Bien, Clovis s'est converti, il avait reçu le baptême catholique en 496. Et à cette même date, le pape Anastase II montait sur le siège de Saint-Pierre, et ce pape a profité de la coïncidence pour écrire au roi Clovis, le nouveau converti, une lettre admirable, et faisant allusion au grand nombre de barbares qui descendirent avec leur chef dans le baptistère pour se faire baptiser, il s'exprime ainsi, il dit « Que l'Église, votre mère, se réjouisse de l'accroissement d'un tel fils qu'elle vient d'enfanter à Jésus-Christ, son époux. Ô glorieux, illustre fils, soyez la consolation de votre mère, un protecteur capable de la défendre contre ses ennemis. » Et dans ces premières paroles du chef de l'Église à la nation franque, on trouvait déjà implicitement contenu le titre de « fille aînée de l'Église », qui lui fut donné plus tard à la France. Et au temps d'Étienne II, quelques temps plus tard, quelques siècles plus tard, on a fait appel à Pépin le Bref contre les Lombards, et on se souvient qu'il y avait à Rome les restes d'une vierge chrétienne tenue pour la fille de Saint-Pierre, et c'était Pétronille, son enfant de prédilection. Saint-Pétronille devint donc la personnification de la France chrétienne. Nos ancêtres avaient un très, très, très grand culte pour Sainte-Pétronille. C'est pour ça que je vous en parle. C'est à la mémoire de nos vieux ancêtres. Et beaucoup d'entre nous ont fait des arbres généalogiques. Puis on s'intéresse qui était qui, et puis le fils de qui, etc. Mais il faut peut-être aussi essayer de penser à ce qu'ils vénéraient. Qu'est-ce qu'ils faisaient, nos ancêtres? Ben, une petit détail parmi bien d'autres, c'est cette vénération qu'ils avaient pour Sainte Pétronille. Elle était le symbole des relations de la France, du pays de nos ancêtres. Je parle pour ceux qui, comme moi, viennent de France. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs dont les ancêtres ne viennent pas de France. Mais vous savez que la majorité des Québécois de souche sont d'origine française. Alors donc, c'est sur son nom, sur son tombeau, que l'Église et la France ont contracté une nouvelle alliance. Et Pépin, au 8e siècle, le roi Pépin, prit à cœur ce culte symbolique envers la patronne que l'Église lui offrait. Et telle fut l'origine, donc, du transfert de ses reliques à l'Église Vaticane, là, où Paul Ier, qui était frère et successeur d'Étienne II, deux papes qui étaient frères, l'un après l'autre, hein, leur a dédié un oratoire construit tout exprès, puis les saints ossements furent transportés triomphalement. Alors, le père, Saint-Pierre, et la fille spirituelle, Pétronille, était désormais réunie à Saint-Pierre de Rome. Et le pape a célébré la messe en action de grâce à l'autel de la protectrice du roi de France. C'est tout un titre qu'elle avait, cette Sainte Pétronille. Sous le règne de Charlemagne, c'est Carloman qui eut l'honneur d'être le filleul d'Adrien Ier et le baptême eut lieu dans la basilique de la Sainte. Alors c'est toujours un rapport très étroit entre la France catholique et Rome, à travers, chose étrange, Sainte Pétronille. Mais ça va beaucoup plus loin. L'empereur, les évêques, les abbés et les grands de l'Empire franc ont rivalisé de piété, de munificence avec Léon III envers Sainte Pétronille, devenue la patronne officielle nationale de la France, et on en vint à appeler sa basilique la chapelle des rois de France. Et parmi eux, Louis XI et Charles VIII se distinguèrent par leur dévotion et leur générosité. Et écoutez bien ça, ça va très loin. Le cardinal Jean de Villiers de la Grolet, abbé de Saint-Denis, c'est le fameux monastère tout près de Paris, fit exécuter par Michel-Ange et placé dans ce fameux sanctuaire de Saint-Pétronille à Rome, la célèbre Pietà, oui, la Pietà de Michel-Ange, c'était pour Sainte Domitille. Dis-nous, hein? Et le culte, toutefois, est allé en déclinant. C'est éteint, au début du XVIIe siècle. Et vers 1600, bien, la France n'exerçait plus son droit de patronage sur la chapelle de Sainte Pétronille à Rome. Et à cette époque, l'Église connue sous le vocable de Saint-Louis des Français a progressivement supplanté l'antique oratoire des rois de France au Vatican. Puis la chapelle de Sainte-Pétronille a été démolie sous Paul III. L'Église Saint-Louis des Français, si vous allez à Rome, je vous recommande d'aller là, il y a souvent d'excellentes conférences. J'ai souvent entendu des conférenciers fantastiques que j'ai été invité par après à mon émission Rencontre, que j'ai réalisée pendant 20 ans à Radio-Canada. Et en 1889, le cardinal Langénieux se souvint des rapports séculaires de Pétronille avec la France. Léon XIII a remis officiellement le gouvernement de la République française en possession de la chapelle de Sainte-Pétronille, ce sanctuaire qui fait actuellement partie de la grande basilique Saint-Pierre et qui est situé sous la petite coupole de droite, là, en allant vers la chaire de l'apôtre, vers son trône. Et une lampe brûle nuit et jour, aux frais de la France, encore aujourd'hui, devant l'autel de la fille adoptive de Saint-Pierre, en symbole de la fidélité de la France envers la Sainte Église. Mais attention, je risque de déplaire ici à certaines féministes. L'art populaire représente Sainte-Pétronille, savez-vous comment? En tenant un balai. Pour signifier qu'elle s'occupait des travaux ménagers, auxquels elle, une noble patricienne, s'est dévouée par amour envers le Christ et envers Saint-Pierre. Eh oui, les femmes au foyer peuvent invoquer peut-être Sainte-Pétronille, celles qu'on appelle les reines du foyer, on essaie de leur trouver des titres pour mettre en valeur les tâches d'éducation de leurs enfants. les tâches nobles et très belles comme a fait ma mère, moi, et j'ai beaucoup admiré ma mère, qui avait beaucoup de talent, elle aurait pu travailler, mais elle préférait être au foyer. Je crois que nous, mes trois frères et moi, avons beaucoup apprécié de retrouver notre mère au retour du collège pour discuter avec elle de nos travaux scolaires, de nos travaux, même de nos versions latines. Elle nous aidait là-dedans, elle en connaissait un peu, et c'était très, 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 très intéressant de lui parler, mais d'être attendu par elle, ne serait-ce que pour avoir une petite collation au retour du collège. Tous ces gestes marquent des enfants. Et c'est triste qu'aujourd'hui tant de femmes soient obligées de travailler et ne puissent pas recevoir leurs enfants et s'en occuper autant qu'elles le souhaiteraient sans doute. Invoquez Sainte Pétronille, peut-être qu'elle trouvera le moyen de solutionner vos problèmes. On invoque aussi Sainte Pétronille contre les fièvres, parce qu'elle en a souffert longtemps avec patience. Les reliques de Sainte Pétronille semblent plutôt douteuses de nos jours. Sainte Angèle de Mérissy, qui est une vierge, encore une vierge. Mais que voulez-vous? Les femmes qui sont demeurées vierges souvent ont fondé des instituts et on a pu étudier leur vie et reconnaître leur sainteté. Les femmes qui élèvent des enfants meurent malheureusement bien oubliées, mais ce sont souvent de très très grandes saintes. Je vous parlerai à l'occasion, je l'ai déjà fait, de sainte laïque et de mère de famille. Angèle de Mérissy est née au 15e siècle, un 21 mars 1470, sur la côte sud du lac de Garde. C'est très très beau, là, dans le diocèse de Vérone, hein, sur le territoire de la République de Venise, donc dans le nord-est de l'Italie. C'est magnifique dans ce coin-là. Ses parents lui ont donné une éducation chrétienne solide. Et puis, ils n'ont pas pu vraiment soigner sa formation intellectuelle. D'ailleurs, elle les a perdus tous les deux alors qu'elle n'avait que 15 ans. Et alors, avec sa sœur, elle est passée chez son oncle maternel qui s'est occupé d'elle. C'était un homme pieux, heureusement, qui a permis aux deux enfants, aux deux sœurs, de continuer chez lui leur pratique religieuse. Elles priaient ensemble souvent. Et bientôt, Angèle de Mérissy a perdu sa sœur, qui était son unique consolation. Ça ressemble à Gabrielle de la Dolorata tout à l'heure, n'est-ce pas, qui a perdu sa sœur. Et c'est encore la mort qui frappe une adolescente. La mort qui frappe très tôt. Et à la suite de ce deuil, eh bien, pour se sanctifier plus sûrement, Angèle s'est fait agréer dans le tiers-ordre de Saint-François. Et maintenant, c'est son oncle qui meurt. Et elle retourne chez ses frères, dans son village natal, à Desenzano. Elle avait 20 ans. Elle est frappée des désordres qui règnent dans la société. Et elle ressent au fond de son cœur un appel de Dieu. Elle commence à s'inquiéter de la sanctification de son prochain. Elle se met à s'adonner à des œuvres de charité, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui le font. C'est surprenant de voir la quantité de jeunes qui vont visiter des vieillards, qui s'occupent de nourrir des pauvres, et qui s'occupe d'aider des pauvres. Il y en a beaucoup plus qu'on pense dans notre société. On n'en parle pas, on parle souvent des jeunes qui font des mauvais coups. C'est dommage. Et en 1516, elle décide de s'installer à Brescia. Elle accomplit de nombreux pèlerinages. Elle approche de la cinquantaine. Hein? Et en 1524, elle se joint à un groupe de pèlerins, comme Saint Ignace de Loyola devait le faire la même année. Des pèlerins qui s'embarquent à Venise pour visiter la Palestine, ce qu'on appelle Israël aujourd'hui. Une chose étrange, en Crète, elle souffre de cécité, elle perd la vue, elle devient aveugle, quoi. Et comme si Dieu, qui pour la détacher de tout ce qui n'est pas lui, la frappe dans ses affections les plus chères. Et si, comme Dieu avait voulu lui apprendre le renoncement à ce qui semblait devoir favoriser sa dévotion, alors elle fait ce voyage sans rien voir, et c'est d'un retour en Crète qu'elle retrouve la vue. En 1525, le pape Clément VII veut la retenir près de lui, parce qu'il la trouve remarquable, pour qu'elle puisse s'occuper à Rome des bonnes œuvres. Elle est devenue une femme d'œuvre, comme on dit. Hein? Je vous rappelle, elle est déjà d'un certain âge, cinquantaine d'années. Elle revient à Brescia, en Italie, où son activité était interrompue en grande partie par les guerres, là. Encore des guerres. Au moment où Charles Quint marchait contre Bologne, cette belle ville de Bologne, et bien Angèle, pour éviter les excès des soldats, se réfugie à Crémone, où elle tombe gravement malade, et elle est guérie miraculeusement lors d'un pèlerinage au Mont Varallo, puis elle revient à Brescia après la paix du 5 août 1529, qu'elle avait prédite. C'est une visionnaire, pas autant que d'autres. Et cette paix met fin aux maux de l'Italie. Puis elle a 61 ans. Et c'est à ce moment-là qu'elle fonde les Ursulines, la grande congrégation des Ursulines. Elle consacra à cette œuvre les dernières années de sa vie. Elle est morte 5 ans plus tard. Elle avait 66 ans. Puis elle est enterrée à l'église de Saint-Afra. Son village natal de Desenzano l'a pris pour sa protectrice, et en 1608, on lui a consacré une chapelle de sa principale église, et son tombeau est devenu bien vite un lieu de pèlerinage. Saint Charles Borromée s'est occupé activement de sa béatification. Et le 30 avril 1668, eh bien, Clément XIII a promulgué le décret introduisant sa cause, puis en 1790, Pius VI l'a déclaré canonisable, et elle a été canonisée en 1807. Dès sa plus jeune enfance, Dieu l'attira. Elle aimait à s'enfermer dans sa chambre avec sa sœur et y dresser des autels comme on faisait moi dans ma jeunesse. Je me souviens, beaucoup de jeunes ont fait ça. Hein, et devant lesquels elle récitait les psaumes à deux cœurs comme des moniales. Elle dormait sur un lit de planches et après s'être reposée quelques heures, bien, elle se levait pour prier. Un jour, elle s'enfuit de chez son oncle pour chercher un ermitage, mais son oncle l'a ramenée chez lui. Elle est douée d'une beauté peu commune, très belle, et éprise comme elle l'était de Jésus. Ça lui fut vraiment un rude calvaire là, que d'attendre sa 13e année pour recevoir enfin la Sainte Communion. À cette époque, c'était vers 13 ans qu'on recevait la Communion. Et les débuts de son activité apostolique furent bien humbles, mais elle savait déjà que pour faire le plus, mais il faut d'abord accepter de faire le moins. C'est ce qu'elle écrit dans son testament spirituel. C'est pas bête, hein? Pour faire le plus, il faut d'abord accepter de faire le moins. Ce moins, bien, ce fut de répondre à l'appel de bourgeois notables de Brescia qui la priaient de venir vivre avec eux pour les consoler de la perte de leurs deux fils qui avaient été tués à la guerre. Ce moins, bien, ce fut de pénétrer sous le toit des pauvres aussi, comme dans l'atelier de l'ouvrier, pour y opérer des conversions par sa charité qui était humble, tout à fait prévenante. Mais ce fut aussi de mettre fin à des inimitiés mortelles et invétérées comme il en existe, malheureusement, de nos jours, un peu partout, mais particulièrement, disait-on à cette époque, en Italie. Abruzzo, une vision, l'avait averti. qu'elle serait fondatrice d'une compagnie, c'est-à-dire d'une communauté religieuse, si on veut. Et pour bien comprendre la fondation d'Angèle Mérici, ben, il faut se placer dans le cadre historique. En 1535, c'est en pleine Renaissance, puis au creux de cet humanisme que combattent Savonarole à Florence, puis Bernardin de Sienne, ben, elle emprunte, elle, l'estime de l'esprit humain. Elle est touchée par ce qu'il y a de valeur chez l'homme et chez la femme. Puis elle comprend les défaillances de l'homme et de la femme. Le raisonnement d'Angèle, en fondant son institut des Ursulines, est facile à reconstituer. La grande plaie de la Renaissance est le débordement des mœurs et la paganisation de la société. Or, on ne peut, croit-elle, réformer les mœurs que par la famille. Et l'on ne peut réformer, dit-elle, la famille que par l'éducation de la femme. Alors, elle veut vraiment faire des femmes des vraies femmes et des hommes des vrais hommes. Pas en faire des êtres chrétiens éthérés. Non, non, des gens qui ont les pieds sur la terre. L'influence qu'Angèle s'était acquise par son activité charitable devait attirer de nombreuses femmes et jeunes filles qui lui demandaient de vivre en communauté, puis alors elle les a engagées à demeurer dans le monde tout en consacrant à Dieu leur virginité, afin, disait-elle, de pouvoir travailler plus efficacement à la rénovation de la société. Alors, de sérieuses précautions furent prises. Alors, tout d'abord, l'obéissance. Hein? Toujours. De fréquentes prises de contact, ensuite, pour se concentrer sur les méthodes d'apostolat à utiliser. Et c'est le 25 novembre 1535 que ses premières compagnes, au nombre de 28, ont scellé leur alliance. Et le 8 août 1536, eh bien, la règle élaborée par la fondatrice fut approuvée par le cardinal, évêque de Vérone. Elle comprenait 12 chapitres. Et la grande innovation de Sainte-Angèle, renouvelée ensuite par d'autres fondatrices, et que les théatins, c'est une congrégation d'hommes, ça, réalisaient à ce moment pour les hommes, eh bien, consista à créer un régime monastique en dehors du cloître, avec un minimum de vie commune au service du prochain et en contact incessant avec lui. Alors, deux activités principales se partagent l'apostolat des 200 communautés fédérées par Léon XIII en 1903 en une union romaine dont la supérieure générale réside à Rome, c'est l'enseignement puis les missions. Il était toujours question, selon Angèle, de s'adapter, même s'il fallait pour cela modifier la règle. Elle disait, « Je vous supplie de vouloir bien vous efforcer d'attirer vos filles avec amour et de les conduire avec une main douce et suave et non impérieusement et avec âpreté. C'est libérer les âmes que de relever le courage des faibles et des timides, de les corriger avec amour, de prêcher l'exemple à toutes et de leur annoncer la grande joie qui leur est préparée là-haut. » Elle avait une vue sur le ciel. Et Angèle voulait mettre son œuvre sous le patronage d'Ursule. Pourquoi? C'était la Vierge de Cologne, très vénérée au temps de notre sainte comme martyre de la virginité. Et championne de quoi? Mais championne de la culture contre la barbarie. On dit bien qu'aujourd'hui, le grand rempart contre la barbarie de notre monde, ça demeure l'Église. Qu'on lise Evangelium Vitae, la dernière encyclique du pape, pour s'en rendre compte. L'apparition de Sainte Ursule n'est nullement nécessaire pour expliquer le choix de ce patronage, parce que la popularité de Sainte Ursule était immense. L'analogie qu'elle permettait d'établir, on peut dire, entre son temps et celui où vivait Angèle, suffisent à justifier ce choix. Elle a donc pris Sainte Ursule comme patronne, et de là le nom des Ursulines, dont faisait partie notre grande sainte, Sainte Marie de la Bienheureuse Marie de l'Incarnation.